Avant d'attaquer un peu l'actualité de Bullrun, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours artistique? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu une, quelle a été l'étincelle? Pourquoi le choix de l'instrument et du chant? Et quels étaient un peu tes modèles, dans les musiciens qui que t'apprécies?
Alors moi j'ai commencé la musique quand j'avais une quinzaine d'années. J'ai toujours baigné grâce à mes parents dans la musique, hein. Il y avait les Rolling Stones qui passaient en boucle à la maison. Et très tôt je sais pas, j'ai voulu participer un petit peu à ça en étant pas seulement auditeur mais aussi musicien. J'ai commencé par la guitare et j'ai commencé à écrire des textes. J'ai commencé à vouloir les chanter. Et après, tout a découlé de ça. Première formation, guitariste, petite formation qui ont disparu, et formation que t'as quand t'es ado, et la rencontre avec Gaël Berton en 2011, et Bullrun qui naîtra quelques mois plus tard à peine.
D'accord, et en termes aussi bien au niveau du chant que de la guitare basse, tu as des modèles, des références qui en particulier ont pu t'influencer ou un peu
Au niveau
modeler ton jeu, enfin ou modeler le.
la façon de composer, la
Ouais,
façon d'écrire, je reste un grand fan et je suis extrêmement influencé par James Hetfield, ou même de manière générale Metallica. Ça reste la grosse influence. Après, au niveau des textes, je pense que les meilleurs paroliers au monde, ça restera quand même Lemmy, Motorhead et Johnny Cash. Je prends toujours énormément de plaisir à lire ce qu'ils ont écrit. Et j'essaie tant bien de mal de m'en inspirer.
D'accord. Si on vient à Bullrun, on s'était parlé pour la sortie du précédent Dark Ember en septembre 2017. Finalement,
Exact, oui.
quoi de neuf depuis?
Quoi de neuf? Eh bien, on a continué sur notre lancée avec Dark Ember avec plusieurs concerts. Je pense que c'était un bon moyen de faire découvrir notre musique aux gens. Et puis ensuite, l'envie de continuer l'aventure, l'envie de réécrire des nouveaux textes, des nouvelles chansons, chez moi, c'est très vite fait ressentir. Mais là, le processus créatif a été un petit peu différent. C'est-à-dire que là, je me suis isolé dans mon coin pour écrire exactement ce que j'avais envie d'écrire. Et c'est pour donner une couleur assez homogène, en fin de compte, au futur EP, et voir si on allait complètement changer de style. Voilà, je voulais pas faire un Dark Ember 2.0, je voulais vraiment asseoir le style de Bullrun sans proposer une copie conforme du premier essai.
D'accord. Justement, si on revient sur la période Dark Ember, est-ce que y a un événement ou voilà un souvenir particulier qui pour toi un peu synthétise toute cette période?
Bah, pas très longtemps après la promo de Dark Ember, on a eu la chance de jouer à la Boule Noire à Paris. Si je me souviens bien, était notre premier concert parisien, en tout cas le deuxième ou troisième, grâce à Roger d'ailleurs, qui nous avait trouvé cette date en première partie de Wednesday 13, le soir d'Halloween, devant une boule noire bien déchaînée et surtout complète. C'était une très très bonne expérience. C'était un beau baptême du feu pour Dark Ember.
Même si effectivement au niveau purement stylistique, vous n'étiez pas forcément très proche de Wednesday, ça a bien accroché au niveau... Enfin, le public a été réactif et plutôt indulgent, enfin indulgent, comment dire, ouvert d'esprit.
Oui, on a eu la surprise, en effet, le public a bien accroché. De toute façon, on a joué quoi, une demi-heure, 40 minutes à peine. On a donné tout ce qu'on avait. On était vraiment très fiers d'arriver sur cette salle, d'arriver sur Paris avec notre petite EP et notre bagage de Séné-Marnais. Et on a donné tout ce qu'on avait et a priori, on l'a bien fait parce qu'on a eu de très très bons retours.
Ok, et allez, à quelques minutes ou quelques secondes de monter sur scène, avec bien entendu, donc quand même, qu'on veuille ou non, on se met une pression en disant que c'est quand même un concert à enjeu, c'est une première pour le groupe, c'est un peu le grand saut, on se sent comment?
Bah, ça reste un défi et c'est extrêmement galvanisant pour moi. Il fallait marquer le coup, il fallait pas se louper. Donc, on était tous très motivés. Il y a toujours ce trac avant de monter sur scène et de la bière tiède aussi au dernier moment. C'est une très mauvaise idée, mais ça s'est bien passé. L'équipe était aux petits soins avec nous. Il y avait une super ambiance. Donc voilà, on nous a aidés aussi à nous mettre dans le bain, mais ça s'est fait de manière assez naturelle quand tu penses.
D'accord. Et alors, justement, toi, comment tu. Toi, tu peux avoir une difficulté supplémentaire par rapport à tes camarades sur scène, c'est que tu as deux postes à assurer, à la fois le chant et la basse. C'est un équilibre qui se fait assez naturellement, enfin, t'as besoin d'être extrêmement concentré, enfin, comment tu le vis au moment où d'assurer le concert?
Alors ça se fait vraiment de manière assez naturelle, hein. Je me concentre énormément sur le chant et garder ce contact à la fois visuel et au niveau de l'énergie avec le public. Et la basse, je sais pas quelle petite partie de mon cerveau se met en pilotage automatique et j'ai juste à jouer. Là-dessus, j'ai jamais eu de souci. Et je mets toujours le chant en avant, parce que c'est la meilleure manière de communiquer des émotions, je pense, avec le public.
D'accord. J'ai toujours, c'est peut-être un cliché, mais j'ai toujours le sentiment que quand un groupe finit une période avec un disque et attaque un nouveau, ils discutent un peu entre eux de ce qu'ils veulent faire, où ils veulent aller, et ils définissent une direction. Donc, comme tu l'as déjà évoqué, là j'ai le sentiment que ça a été quasiment une réflexion sur toi-même, donc comme tu disais, de ton côté chez toi, et puis. Ça a fait émerger des choses que tu as partagées avec tes camarades et ça a échangé. Comment ça s'est passé?
Ben en fait, ça s'est fait de manière assez naturelle. Avec le recul, je pense que j'avais pas conscience que j'étais en train d'écrire un album un peu plus sombre, un peu plus métal. Je pense aussi qu'on a tous grandi dans nos têtes depuis la sortie de Dark Ember. Et avec le recul, c'est facile de dire ça, mais je pense que c'est la continuité logique du premier EP. Un EP un petit peu plus adulte, avec des nouveaux thèmes, des thèmes qui sont peut-être mieux maîtrisés aussi au niveau de la composition. Je me répète un petit peu, mais je trouve c'est plus homogène là, il y a davantage le même ton en termes de couleurs. Et voilà ce qu'il en est sorti de ce travail d'isolation de mon côté et voilà au niveau de l'écriture.
Tu te souviens de quel titre a été finalisé en premier?
C'est Fire and Hate.
Fire
Et
and
je
Hate.
pense que c'est justement cette chanson qui a donné un petit peu le ton pour les autres.
Vous êtes du genre à beaucoup écrire et puis jeter beaucoup ou finalement vous avez assez vite concentré sur les titres qui apparaissent sur l'EP et que vous avez pu vraiment travailler jusqu'au moindre détail?
Alors, j'ai l'impression d'avoir plus écrit, mais c'est surtout parce que les chansons sont plus longues. Avec beaucoup de parties différentes, beaucoup de changements d'atmosphère. Après, une fois que le morceau est écrit, on va surtout énormément tous les trois bosser dessus, le faire tourner. C'est ce qu'on a eu l'occasion de faire davantage avec Dark Ember, alors qu'on avait moins de temps. Quelque chose qui a été primordial, je pense, pour Wilderness, le Wilderness d'aujourd'hui, c'est qu'on a tout pré-maquetté de notre côté. Donc, on a enregistré les batteries, la basse, le chant, histoire d'avoir un premier jet. Qu'on a fait ensuite écouter un petit peu autour de nous, fait écouter à Jelly Cardarelli et Cimerys, qui nous avaient enregistré Dark Ember, et avec qui on prévoyait déjà d'enregistrer Wilderness, qui nous ont dit, les gars, vous avez passé un cap, je pense que vous vous en rendez pas vraiment compte tout de suite, mais c'est plus le bull run de 2017, il faut à tout prix qu'on enregistre ça le plus vite possible pour montrer aux gens que, bah, vous avez changé, vous avez mûri. Et
D'accord.
encore une fois, encore en studio, il y a des changements de dernière minute. Ça nous permet de nous rendre compte quel riff fonctionne bien, quel riff est-ce qu'il faut mettre en avant, les petites faiblesses sur chaque chanson et de les peaufiner jusqu'à ce qu'on n'ait plus aucun regret en fin de compte une fois que le CD est pressé et qu'on ne peut plus revenir en arrière.
D'accord. Justement, donc les conseils qu'on vous a donnés de sortir assez vite pour montrer l'évolution au public du son Bullrun, c'est ça qui explique que finalement vous n'ayez pas pris le temps d'attendre d'avoir assez pour un album et de vouloir assez vite sortir un EP pour se rappeler au bon souvenir du public?
Oui, exactement. Ça nous a permis de tâter le terrain, tout simplement. Je pense que ça aurait été trop tôt pour sortir un album. Il n'aurait pas eu cette couleur finale. Il aurait eu, à mon avis, j'aurais eu ce sentiment un petit peu de pas fini dans le temps, dans le sens où on n'a pas eu le temps de finir correctement quelque chose. Là, c'est 6 chansons qui ont été composées spécialement en pensant être un EP. Donc, on retrouve même un petit peu une sorte d'EP concept, ce qui est pas facile à faire, en tout cas nous on l'avait jamais fait et je pense que c'est trop tôt pour un album, surtout qu'on continue à essayer de se trouver musicalement à la fois aussi au niveau de nos sujets et non, pour moi c'était très important de refaire un EP et de pas se lancer dans le grand océan, j'allais dire le grand bain, mais c'est le grand océan de sortir un album concept directement.
D'accord. Et donc, comme tu le mentionnais déjà, donc vous avez choisi la stabilité pour l'équipe qui vous entourait, donc avec donc un enregistrement, mixage et mastering au Crimpy Studio avec Simeris. C'est aussi le entre guillemets une facilité pour le groupe de travailler dans un environnement avec des gens que vous connaissez déjà, ce qui vous met en confiance pour pouvoir vous concentrer sur la musique, ou la stabilité peut avoir cet avantage-là, mais aussi de travailler avec des nouvelles personnes peut générer un nouvel enthousiasme entre guillemets. Donc quel était le choix de stabiliser l'équipe qui vous entourait?
Alors avec Cimerys et Jelly, on a la chance d'avoir cette espèce de symbiose qui s'est faite quasiment dès le départ. Ils ont presque un rôle en fin de compte de directeur artistique sur la plupart, sur tous nos morceaux même. Et cette symbiose, je pense qu'elle est assez rare à trouver dans le milieu, de trouver des gens qui sont vraiment passionnés, qui regardent ni à l'heure ni au cachet qu'ils vont avoir, et qui n'hésitent pas aussi à rentrer un petit peu dans le groupe, ce qui est très 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 très, très rare. Toi, quand quelqu'un te dit, écoute, ta prise elle est pas bonne, écoute, ce passage-là il est vraiment faiblard, va falloir l'écrire. Bon, bah, d'après c'est du vécu de Fab et Jelly, il y a énormément de groupes qui auraient déjà claqué la porte en mode, écoute mec, je te file de la thune, c'est pour que tu m'enregistres, j'en veux pas ton avis. Et nous, on reste toujours à l'écoute de ces gens-là, on leur laisse carte blanche, parce que déjà on leur fait confiance. Et en plus, ça fonctionne. C'est une plus-value de fou. Je sais déjà que Wilderness aujourd'hui, bah déjà n'aurait pas le son qu'ils lui ont donné, et il n'aurait même pas la même qualité d'écriture, j'ai envie de te dire.
D'accord, donc c'est vraiment c'est la valeur ajoutée du comment dire d'ingénieur son producteur dans ce qui a de plus positif. C'est-à-dire ça augmente encore le niveau du groupe.
Oui, c'est ça. Et ça le pousse surtout dans ses retranchements, dans sa zone de confort. C'est amusant parce qu'on m'a posé une question en me demandant, tiens, si j'avais des millions de dollars, quel producteur je pourrais prendre dans le milieu? Et j'ai répondu, bah, j'ai vraiment pas envie d'en prendre d'autres. J'ai pas envie de perdre, tu vois, ce côté-là qu'on a avec eux parce que ça fonctionne vraiment comme sur des roulettes. C'est comme si on me donnait le son parfait et qu'on me disait, oui, mais pour plus cher, t'as mieux. Oui, mais c'est ce son-là que je veux, en fait. C'est cette manière d'écrire et cette manière de produire de la musique.
D'accord. L'enregistrement, il s'est étalé sur quelle période de temps?
Au début, alors déjà, on a commencé par enregistrer la basse. Ça, c'est intéressant parce que c'est à mon avis aussi ce qui a donné le résultat actuel. On a commencé par enregistrer la basse au mois de mars 2019, je crois, et on a fini le chant vers septembre.
Et donc.
Donc c'est 6 mois, c'est ça.
Et donc, mais c'était sur des périodes où vous aviez quelques jours pour travailler dessus, puis vous arrêtiez, vous repreniez, enfin c'était par découpé ou.
Oui, c'est ça, on a découpé ça par instrument. On a d'abord enregistré la basse, ensuite on a fait une pause, la batterie, guitare, chant, avec toujours des petites pauses entre les deux, histoire de pas imploser pendant le processus.
Et au niveau et la partie chant elle-même, ça t'a pris combien de jours?
Je pense que c'est ce qui a pris le plus de temps, hein, sur ces 6 mois d'enregistrement. Le chant a pris quasiment la moitié, on va dire 2 mois, 2 mois et demi.
En moyenne, tu as une idée de. Il te faut combien de prises ou en moyenne, quelle prise est la bonne et apparaît sur le disque au niveau de ton chant?
Au niveau du chant, alors ça va être c'est un instrument tellement organique que ça va dépendre des jours. Je suis capable de faire une très bonne prise alors que je suis crevé, j'ai dormi 3 heures, et le lendemain ou le surlendemain, tu vas pas comprendre, mais on va rien garder, on va rien sortir, je suis pas dedans. C'est très comment je pourrais te dire, c'est très aléatoire le chant. Ça dépend vraiment des jours. Et comme Fab et moi, on a ce côté un peu perfectionniste. Quand ça veut pas, bah c'est pas grave. C'est pas la peine de s'énerver. On n'a pas de deadline en plus. Donc on pose le truc et on attendra le lendemain ou le surlendemain s'il y a besoin. Faut surtout pas forcer la chose. On aura la bonne prise quand elle arrivera.
Au niveau philosophie d'enregistrement, il y a un peu de philosophie. Il y a les groupes qui disent on prend une prise au complet, ou en tout cas la plus complète possible, avec des hauts et des bas, mais on estime que c'est elle qui a le plus de caractère. Et il y a le côté, la technique le permet, de faire un énorme découpage où je prends cette phrase de cette prise-là, cette phrase de cette prise-là, je les mets toutes bout à bout et ça me fait ma chanson.
C'est
Quelle
ça.
philosophie vous avez adoptée?
Un mix des deux, en fonction des parties, en fonction de ce qu'on voulait faire. C'était vraiment ouais, c'est ça, un mix des deux. Il y a du phrasé, on a fait quasiment presque du mot par mot, j'ai envie de te dire, et d'autres parties qui sont sorties toutes seules, et on s'est dit, bon bah voilà, il y a l'énergie, il y a l'accent, parce que c'est aussi le petit problème quand t'es sénémarnais et que tu chantes en anglais, ça ne pardonne pas hein, cet accent-là. Donc il faut bosser sur l'énergie, sur la justesse, sur l'accent, sur la diction. À chaque fois que tu réécoutes ta prise, en fin de compte, tu as un petit cahier des charges d'une dizaine de lignes en te disant, ok, s'il y a un seul truc qui va pas, il faut la refaire. Il faut la refaire parce que tu peux pas te permettre d'avoir une petite faiblesse sur ton album, surtout aujourd'hui en 2020 avec le niveau des groupes actuels.
Est-ce que tu as besoin, pendant les phases d'enregistrement, de modifier un mot par-ci, une phrase par-là? Parce que tu te rends compte que ça te rend plus difficile l'exercice du chant parce que tu as un mot trop long ou un mot trop court ou ça tombe pas comme tu le veux. T'en arrives à devoir modifier les choses ou comme tout est maquetté d'avance, tout est calé?
Alors même si en effet, ouais, c'est vrai que comme on a tout pré-maquetté, la logique voudrait qu'on ne change plus rien, mais ça nous arrive encore de changer. De changer parce que ouais, peut-être que ça tombe mal, peut-être qu'on a besoin d'une autre plosive, d'une autre consonne à ce niveau-là, ou tout simplement parce que j'ai un mot en tête qui je me dis, tiens, pourquoi est-ce que j'ai pas mis ce mot-là à la place? Ça illustre beaucoup mieux ce que j'ai voulu dire. C'est aussi l'avantage de faire tourner les chansons et de les épurer. Extrêmement longtemps, c'est que t'es jamais à l'abri d'une bonne idée. Il faut pas t'en priver parce que, comme je te disais, une fois que l'album est pressé, c'est terminé. C'est pas la peine de revenir 6 mois après en me disant merde, hein, j'aurais pas dû faire comme ça. Donc, faut être sûr de prendre la bonne solution sur les 1 million qui te sont offerts au moment de l'écriture.
D'accord. En tant que parolier, justement, tu es du genre à avoir un petit carnet et à noter des bouts de phrases ou des mots qui te viennent ou d'avoir ça sur ton téléphone dans un notepad ou etc. Ou c'est un peu comme ça que tu fonctionnes?
C'est un petit peu comme ça que je fonctionne, en effet. Parfois, j'ai des petites phrases qui me viennent en tête en me disant, tiens, ça ferait soit un bon sujet, soit un bon début de couplet ou de refrain. Je note tout ça. Et après, je me fais des grosses sessions d'écriture où je ne vais pas quitter mon ordinateur ou ma feuille A4 blanche avant d'avoir quelque chose qui me convient. Donc, ça peut, ce qui est amusant pour Fire and Hate, j'ai dû composer cette chanson-là d'une traite entre 3 h du matin et 5 h. Et c'était hors de question que je lâche le riff en me disant, c'est bon, je vais me coucher, je m'en souviendrai demain matin. Ce qui n'arrive jamais, ça faut faire attention. Et non, non, niveau de composition, j'aime bien rester sur le morceau jusqu'à ce qu'il ait au moins un aspect définitif.
La musique vient toujours avant les paroles ou c'est arrivé que les paroles viennent avant?
Non, c'est toujours la musique,
C'est toujours la
pour
musique.
le moment. Pour le moment, parce qu'après ce record-là, je me suis dit, tiens, ce serait quand même intéressant de composer même le chant, en fin de compte, avant la guitare. Parce qu'aujourd'hui, le chant, ça a pris une importance tellement dingue dans la musique, que je pense que commencer par cet instrument-là, ce sera une idée intéressante à développer. C'est ce qui est prévu pour les prochains morceaux, d'ailleurs.
D'accord. Autre élément important, enfin en tout cas le premier contact pour le fan, c'est la pochette. Donc d'après ce que j'ai vu, vous avez encore travaillé avec Slow.
Oui, avec Sébastien Pinel.
Voilà. Toujours dans une thématique assez proche, mais dans une gamme chromatique totalement différente. Autant Dark Ember, on était donc dans le côté désert, marron, couleur sable. Là, c'est beaucoup plus presque, quasiment science-fiction, enfin beaucoup plus coloré dans les violets, verts, etc. Quelle était un peu votre idée d'origine, le pitch?
Alors avec Slow, on a la chance aussi on a bossé exactement de la même manière que pour Dark Ember, c'est-à-dire qu'on lui a donné quelques petites idées, à peu près ce qu'on voulait. On lui a dit que les paroles étaient plus sombres, donc on voulait une pochette avec des teints beaucoup plus froids. Ça parle énormément de solitude, énormément de besoin parfois de s'isoler, de se détacher des choses pour pouvoir se retrouver. Et on avait pensé, on lui a juste dit ça, hein, à un train qui quitte une ville. Alors, et à partir de là, bah, il nous a dit, OK, il n'y a pas de souci. Il avait écouté notre musique, il avait écouté les textes. Et comme c'est un passionné, il a pu, le fait de lui donner carte blanche, du coup, il peut énormément se lâcher. Et il est revenu donc avec ce train un petit peu steampunk, un petit peu déglingué, mais qui quitte, comme tu dis, une ville futuriste ou une mégalopole hallucinante pour un désert un petit peu plus vrai. Toujours dans cette ambiance très sombre, très presque post-apo, hein.
Ouais. Et les tons de couleur étaient déjà là dès l'origine ou vous avez vu plusieurs propositions?
Ben, j'avais envie que ça contraste justement avec Dark Amber. Dark Amber, c'est rouge, c'est orange, c'est vraiment les couleurs du désert, comme tu disais. Là, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de froid. Toujours avoir une pochette qui attire l'œil, qui intrigue même, parce qu'il y a plein d'histoires, je pense, à raconter autour de cette pochette, des histoires fantasmées. Et voilà, je voulais que ça change de ton. Vu que la musique a elle-même changé de ton, ça me paraissait important de pas rester dans le domaine des couleurs chaudes de Dark Amber.
D'accord, ok. Non, non, bah c'est. Les deux sont très colorés et très vivaces de leur façon. Donc c'est plutôt quand on les voit l'une à côté de l'autre, c'est plutôt sympa. Ouais.
Oui, c'est ça. On était très contents, en effet, quand on a mis les deux EP à côté, de se dire, ah ouais, d'accord, ouais. C'est cohérent et en même temps, c'est pas la même chose. C'est pas Dark Amber 2.0.
Et lui, il vous a aussi un peu dans la même thématique, train, etc., retravaillé le logo?
Oui, on voulait un logo légèrement différent, histoire de garder une cohérence visuelle, mais pas un vulgaire copier-coller, comme ça aurait été si facile de faire.
D'accord. Toujours dans le domaine visuel, et on le disait, donc vous savez toujours, je pense, c'est un peu un des leçons de cette interview, c'est vous savez toujours vous entourer, je pense, des bonnes personnes. Autre élément important autour de vous, donc c'est Julien Metternich,
Oui, exact.
qui vous aide pour tout ce qui est, donc on continue à faire connaître le groupe et la promo. Alors, il est intervenu sur le clip, là, de Fire and Hate, mais je crois qu'il intervient plus largement que ça.
Oui, rencontre très importante avec Julien, en effet. Le premier contact s'est fait quand on a fait nos petites vidéos teaser de l'EP. Ça a matché tout de suite. C'est aussi quelqu'un qui est non seulement passionné de musique, mais en plus de cinéma, ce qui est notre cas à tous les trois dans le groupe. Et on est très très vite parti sur cette idée de clip, et une idée de clip qui était supposée marquer les esprits. Voilà, il nous a dit, moi je veux bosser avec vous, mais je veux pas faire un clip où je tourne pendant 3 minutes 30 autour de la batterie, quoi.
Ouais. Ah bah d'ailleurs le clip, j'invite les gens à le voir sur YouTube. Effectivement, il y a des explosions, des cascades, enfin c'est pouf. Tu peux justement nous en parler de cette expérience de tournage?
Bien sûr, c'était très intense, c'était extrêmement extrêmement stressant, parce qu'on a tout fait on a dû tourner pendant 14-15 heures d'affilée. Ce qui est intéressant, c'est la genèse, comment Julien a écrit le clip. Déjà, il voulait faire ça sur Fire and Hate. Il était parti sur plusieurs scénarios. Est-ce qu'on allait faire une scène de guerre? Est-ce qu'on partait sur un truc un peu post-apo? Il avait même été question de zombies à un moment donné, en mode Walking Dead. Et pour moi, Fire and Hate, c'est une chanson sur les passions dévorantes, sur l'ambition que quelqu'un peut avoir pour. En ce qui me concerne, pour moi, c'était la musique. Cette envie de toujours se dépasser, même si t'es bouffé un petit peu par ton propre art. Et quand Julien a lu les paroles, il m'a rappelé dans la foulée en me disant, mec, c'est une dispute de couple. C'est juste une dispute de couple. On va partir là-dessus, sur un couple qui se déchire avec des armes à feu, avec des grenades, des explosions, un lance-roquettes. Et quand j'ai relu les paroles, je me suis dit, ah bah oui, c'est vrai, ça fonctionne aussi. Ça fonctionne aussi. Donc j'étais assez content qu'il projette sa vision de mes paroles sur le clip. Ça veut dire que ça fonctionne dans plusieurs sens. Et après, au niveau de l'aspect plus technique, je sais pas si tu as vu qu'on avait sorti le making-of
Oui,
il y a
j'ai vu,
quelques
c'est
semaines, une
intéressant.
semaine ou deux. Donc voilà, comme je te disais, c'est 15 heures de tournage avec un armurier, avec une grosse équipe de 20 personnes, et ça a été non-stop. C'est là que tu vois que Julien est passionné, mais en plus aussi très très doué, parce qu'on a réussi à respecter le planning, avec 4-5 heures de retard, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a réussi à tout faire en une seule fois, ce qui était franchement pas évident au premier abord. Je pense qu'on est tous arrivés ce jour-là en se disant, c'est simple, soit on fait un truc vraiment bien et on réussit tout ce qu'on veut, soit on n'y arrive pas, et c'est la catastrophe. C'est vraiment la catastrophe.
Vous avez tourné où?
On a tourné au paintball de Sermaize dans le 45 avec Christophe, le gars du paintball, qui est aussi passionné de musique. Et donc tu vois, ça n'en finit plus. Dès que tu bosses avec dès que tu mets des gens passionnés dans la même pièce ou dans le même cercle, je trouve que ça fait des étincelles à chaque fois. Et qui était juste sur le cul de voir arriver des petits Sénémarnais. Salut, est-ce qu'on peut venir faire péter tes bagnoles? On a ça, ça, ça. Et quand on revenait pas du résultat du clip, même moi aujourd'hui, quand je revois, je me dis d'accord, on a réussi à faire ça, quoi. Donc c'est possible.
Et c'est Julien et tous ses contacts dans le milieu qui permettent donc de trouver les acteurs, effectivement tu disais le accessoiriste, enfin faut trouver un bazooka, des armes, des machins. Ça,
Alors,
c'est.
c'était au niveau des acteurs et de la maquilleuse, c'était l'équipe de Julien, des gens avec qui il aime bosser, qui l'appelle toujours sur des gros projets, avec qui il est en confiance. Et pour l'armurier, là, on est plus du côté de l'armurier, le son, les lance-flammes, tout ça. On est plus du côté du réseau de marques, qui est ingé son, donc dans le domaine du spectacle, qui nous a trouvé ces gens-là. Donc c'est encore une fois un petit cercle, des gens qui se connaissent, mais qui se connaissent parce que ils aiment les mêmes choses et ils aiment surtout partager leur passion et faire les choses jusqu'au bout. Personne n'en a eu marre à 2 heures du matin et a décidé de rentrer chez lui parce qu'il avait autre chose à faire.
D'accord. Peut-être de moins ambitieux parce que ça a quand même un coût tout ça. Est-ce que vous avez d'autres choses en vidéo, dans les tuyaux?
On réfléchit à comment faire de la vidéo pendant le confinement. Mais oui, on a encore du contenu, on a encore un petit peu de contenu sous le coude. Il sera question de faire un second clip pour Wilderness, sur quel titre, je ne sais pas encore. Et on se pose des questions, peut-être qu'on va se tourner vers de l'animation, de la lyrique vidéo, peut-être aussi du streaming, faire des live sessions. Je pense que c'est le meilleur moyen aujourd'hui de garder contact avec nos fans et de prouver qu'on est toujours là et continuer à faire vivre notre musique, autrement que sur scène, malheureusement.
D'accord, tu me tends justement la perche. Est-ce que je suis pas sûr de mon coup, mais vous avez repoussé la sortie de l'EP, non? C'était mars, non? Enfin, c'était vous l'avez sorti en mai, c'est ça, non? Ou je sais plus, c'est moi qui tends.
Alors, on l'a sorti en mai en dématérialisé,
C'est ça.
histoire de taper le terrain et d'avoir des premiers tours, parce qu'encore une fois, on n'est jamais sûr de quoi que ce soit. Et comme on a eu de très très bons retours, c'est en août qu'on l'a sorti en physique.
C'est ça.
Oh.
Vous avez réfléchi à reporter la sortie. Bon, il était déjà sorti donc en démat, mais une sortie physique en 2021 ou bon, on s'est dit bon, il faut que ça sorte, faut que les gens puissent se l'approprier quoi.
Non, arrivé en mai, on a eu, je pense que tous les groupes se sont posés ces questions-là. D'ailleurs, on s'était retrouvés avec d'autres groupes pour savoir que eux allaient faire. Et on en est arrivé à la conclusion qu'il y avait deux solutions. C'était soit on met tout en stand-by, on attend que ça passe, alors que nous, tout était enregistré, hein. On attend que ça passe et on sort Wilderness en 2021, voire peut-être même 2022. Soit on sort tout quand même et on s'adapte, on fait d'autres choses à la place. Et on a décidé de faire ça parce qu'on avait vraiment très très envie de faire avec notre musique. Et d'ici là, on aura le temps de faire d'autres choses. On n'avait pas envie de mettre tout en stand-by. Donc on a pris la décision de sortir quand même et de trouver un moyen de faire du contenu via Internet et les réseaux sociaux.
Et en tant que groupe, est-ce que vous avez pu faire contre mauvaise fortune bon cœur et peut-être utiliser la période de confinement et la période compliquée qu'on continue à vivre pour peut-être, je sais pas, accélérer les compositions pour la suite ou déjà essayer d'utiliser ce temps-là pour quelque chose de créatif?
Oui, bien sûr. Moi, j'ai toujours pas arrêté de composer. C'est aussi une période vraiment particulière, mais peut-être, comme tu le disais, propice à la composition, composer des choses différentes que j'aurais pas composées si le monde s'était pas arrêté de tourner. C'est en effet, comme tu dis, c'est l'occasion de voilà tirer un avantage de notre malheur, de se dire que la règle, elle est la même pour tout le monde. C'est ça aussi qui est très important. C'est que tu prennes le plus grand groupe du monde ou le petit groupe de Seine-et-Marne, c'est pareil, il n'y a pas de concert. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut se démarquer. Je pense que ce qui nous sauvera là-dedans, bah, c'est la passion des musiciens et surtout l'humain, parce que je pense que tout le monde est obligé de faire des concessions.
Non, je pense que c'est la bonne philosophie. C'est à l'effet de se tenir les coudes et puis attendre. Pour finir, on a un petit quiz, juste quelques questions. Alors, c'est pas bonne ou mauvaise réponse, c'est tes goûts. Hein, donc, c'est juste apprendre à mieux connaître le
Bien
musicien avec qui
sûr.
on parle. Alors, sur les chansons de Bull Run que vous avez sorties, quelle est celle que tu aimes le moins?
Dust and Sand, parce que c'était un cauchemar enregistré.
D'accord. Donc, c'est les souvenirs de cet enregistrement qui pèsent sur le titre.
Voilà, exactement. C'est pas sa faute, mais c'est comme ça.
Quelle chanson tu aurais adoré avoir composée?
Unforgiven de Metallica.
Je dis toujours, prenez un hit du top 50, au moins vous auriez gagné du fric si la chanson n'était pas géniale. Mais Unforgiven, je pense qu'elle a fait les deux, donc tout va bien. Elle est très
Oui,
bien et en plus
exactement.
elle a dû rapporter du fric à Metallica.
Je pense, oui.
Alors tu as peut-être déjà répondu à la question, mais on verra. Est-ce que pour imagine pour le prochain EP ou album, tu as le choix d'un invité. N'importe qui. Tu prends mort ou vivant, tu prends qui?
Un guest,
Ouais.
moi je dirais Danko Jones, parce que j'adore le personnage. Ouais,
D'accord.
j'adore le personnage et je pense que ça peut en plus donner une couleur assez amusante à Bolloré.
Ok. Alors là, c'est pas, tu peux enregistrer avec qui tu veux où tu veux, mais vous pouvez vous produire en concert n'importe où dans le monde, n'importe quelle salle. Tu voudrais aller où? Est-ce qu'il y a une salle qui te fait rêver ou t'as vu des concerts qui t'ont fait rêver?
Bah tu vois, j'irai pas bien loin parce que l'Olympia, ce serait déjà magnifique.
D'accord,
Je pense qu'on a
bah.
tout, je pense que c'est une des plus belles salles de France, ça c'est sûr. Et puis en plus c'est tellement prestigieux que c'est le coup d'une vie, quoi, je pense.
Ouais, mais en plus, enfin, sans jeter des fleurs ou faire du. Potentiellement, c'est un objectif atteignable. Si on avait dit Madison Square Garden, je t'aurais dit ça va être un peu plus compliqué. Mais l'Olympia, c'est en jamais. Hein.
Oui, non, c'est vrai. Puis c'est des salles tellement grandes que voilà, est-ce que tu peux garder un contact avec le public? Est-ce que je prendrais du plaisir à jouer dans un stade moins que à l'Olympia ou dans une petite salle un peu plus humaine?
Ok, et toute dernière question.
Oui.
Est-ce que tu aurais un album qui sorti cette année à conseiller?
Je vais rester dans mes classiques. Je vais écouter le SM2 de Metallica, qui est
Ok.
vraiment extraordinaire. C'est hallucinant d'arriver à ce niveau-là.
Parfait. Bah écoute, un grand merci d'avoir pris le temps de nous répondre.
Ben c'est moi qui te remercie.